Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Cyrus et pour m'accompagner pour cette interview, je suis avec Caducé. Salut Caducé.
Salut Cyrus.
Comment ça va?
Mais très bien.
Super. Et nous accueillons tous les deux donc Déborah Schwartz, responsable éditoriale du pôle jeux de société chez Ozu Éditions. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien. Et vous?
Super. Très bien.
Très
merci.
Bien.
Eh bien, écoute, avant de démarrer cette interview, nous avons pour habitude de soumettre nos invités un petit fil rouge. Donc c'est un ensemble de questions très simples, voilà, c'est histoire de faire connaissance et on pose ces questions-là à tous nos invités.
Ok.
Et à la fin, on fait des stats. Bon, pas du tout.
Pour toi, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes?
Je pense que ce serait... Qui pourquoi? Je l'ai découvert là, cette année-là, on a bien rigolé sur ce jeu-là.
Ah, édité par Blue Orange, je me rappelle plus de l'auteur, l'auteur et aussi l'illustrateur. Ouais. Tout à fait. Et pour toi, quel est l'as d'or du jeu qui t'a fait le plus fumer le cerveau?
Ah ouais. Là, dernièrement, on a testé Behind et sur les derniers puzzles,
ah ouais.
Ça fume.
Ça ouais,
mais il est trop bien.
Quel est l'as d'or du jeu auquel tu ne veux plus jamais rejouer?
Ah, c'est dur.
Tu sais, celui où t'as envoyé voler le plateau. Là.
T'as interrompu la partie avant la fin aussi.
Franchement, ça m'est jamais arrivé. Je persiste jusqu'au bout des jeux.
Ou vraiment ça t'a pas plu quoi.
Ah, je sais pas, désolé, j'ai pas de... Okay.
Ah, ça veut pas bâcher les...
le Monopoly.
valeur sûre. Et quel est l'as d'or du jeu auquel tu penses encore 3 jours après la fin de la partie?
Je pense Terraforming Mars. Parce que il y a plein de trucs que j'aurais dû faire autrement.
Et pour terminer, quel est l'as d'or du jeu le plus moche?
Vous voulez trop qu'on bâche.
Vas-y, bâche.
Oh là là, je vois pas de couverture qui me choque. Allez, croque-carotte. Désolé, je vais que dans la grande distrib.
Ok.
Merci.
Alors, Déborah, donc, on a dit que tu étais la responsable éditoriale du pôle jeu chez Ozu.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous faire l'histoire, alors, rapide quand même, ouais, hein, de Ozu, nous faire la présentation, ce qu'est cette maison d'édition? Parce qu'il me semble qu'à la base, c'est une maison d'édition de livres jeunesse, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, Ozu, c'est une vieille maison, mais à la base, c'était des dictionnaires même et des encyclopédies. Et en 2006, c'est Gauthier Ozu, le fils, qui a repris. Et là, il a lancé la branche jeunesse. Et du coup, les premiers projets, c'était des livres. Et en fait, au fur et à mesure des années, ça a évolué. Et maintenant, on fait toute la jeunesse à 360. Donc, on va faire de la BD, du roman, du loisir créatif, activité, éveil. Et aussi de l'audiovisuel. Enfin, vraiment, on est sur tout le domaine de la jeunesse. Et le jeu est apparu en 2016, les premiers jeux. Et moi, j'y suis arrivée en 2018. Du coup, c'était un peu les débuts des jeux. Et du coup, on est passé d'un éditeur de livres à un éditeur multidirectionnel.
Avec certaines licences à succès?
Il y a aussi des licences. En fait, le Loup, ça a été le premier gros succès. Et c'est grâce à ça qu'au début, Ozu a pu grandir. Aujourd'hui, on fait tellement de choses différentes qu'il y a plein de points qui permettent à Ozu d'évoluer. Mais ouais, Loup et Petit Loup, c'est...
Le Loup en slip, le fameux.
Non, c'est pas lui.
Si, c'est lui.
Non, le Loup en slip, c'est une BD. Mais c'est vrai que le Loup, il ressemble. Mais il n'y a pas de rapport. Ouais.
C'est vrai? Ah non?
Non, nous, c'est un loup avec des grandes moustaches... Mais plus enfantin, le loup en slip, c'est BD ado.
Qui voulait changer de couleur.
Voilà, tout à fait.
Ouais, mais j'étais persuadé que c'était le même perso. Alors moi, je confonds, ok, d'accord.
Nous, il n'a pas de slip.
Et il y a Azuro aussi.
Oui, Azuro aussi, ouais.
Juste parce que, qui fait un peu le lien avec le monde du jeu de société, parce que son illustrateur, c'est Jérémy Fleury, qui œuvre pas mal dans le monde du jeu de société.
C'est clair, exactement. Il y a Azuro. En fait, il y a le pôle licence. Moi, c'est pas ce que j'édite. Les jeux Azuro et tout ça, c'est des jeux de licence. Mmh. Mais par contre, je sais que ce pôle-là travaille aussi avec la team Kaedama et tout. Je pense que ça a évolué aussi. Enfin, maintenant, on est un peu tous mélange, quoi. Pareil, on a un jeu, Le Prince des Ours, qui est devenu un petit album. Enfin, du coup, comme on est plusieurs éditrices et qu'on communique entre nous, bah, d'une BD, on va prendre l'univers et en faire un jeu. Voilà.
Ok, d'accord.
Au départ, en 2016, vous avez commencé avec des jeux plutôt classiques,
ouais,
et des visuels adaptés jeunesse pour type bataille, type, ouais, sans qu'il y ait forcément d'auteur réellement derrière, c'est ça ?
Ouais, tout à fait. En fait, les premiers jeux, c'était vraiment des jeux classiques, Mystic Gris Bataille, sans jeu d'auteur, parce qu'en fait, on était implanté en librairie, pas du tout en boutique ludique, hein. Ça c'est récent. Et du coup, ça a d'abord été bien les gros classiques. Après, on a fait des classiques revisités. Donc là, on prend un jeu de petit bac et on se dit comment on le fait en jeu de cartes. Donc là, c'est du développement en interne. Et après, là, dernièrement, depuis quelques années maintenant, mais on a plein d'auteurs. Je pense les premiers, c'était Roberto Fraga. Après, j'ai beaucoup travaillé avec Théo Rivière aussi. Mmh. Et depuis, maintenant, on a... Franchement, on travaille... 80% avec des auteurs et plutôt 20% sur des jeux classiques. Donc la tendance s'est inversée.
D'accord, ok. Et du coup, vous sortez à peu près combien de jeux par an maintenant ?
10 à peu près, en sachant que dans les 10, du coup, il y a 3 jeux classiques qui ne demandent pas d'auteur, quoi. Donc c'est des jeux qui sont plus rapides en développement. On a une collection de jeux classiques où on va faire le solitaire, etc. Donc là, c'est plus du travail d'illustration. Et après, sinon, on a plusieurs formats aussi. Donc, on a les formats des jeux de cartes, où ça, on va en sortir 4 par an, des petits jeux de cartes. Et après, on va sortir 4 grands jeux. Donc, c'est eux qui demandent le plus de développement. En tout cas, au niveau fabrication et tout ça, on aime bien les grosses structures en 3D. On en parlera après. Et on sort 2-3 petits jeux. Okay. C'est à peu près ça, le rythme.
C'est pas un peu beaucoup 10 jeux par an ?
Mais on revient de très loin. Avant, je faisais 10 jeux de cartes par an. Maintenant, j'en fais 4. Ouais, donc,
c'est,
en fait,
ce qui me semblait.
Ouais, il y a un moment quand on a... Enfin, moi, au début, chez Ozu, c'était trop. Mmh. Et du coup, on réduit petit à petit, quoi. Après, on peut pas en faire tout d'un coup plus qu'un, parce qu'il faut quand même aussi que ça tourne derrière. Mmh. Mais en tout cas, sur 10, on est 2. Je travaille avec Emma aussi. Et c'est un bon... En termes de rythme, en tout cas, nous, on est bien, quoi. On n'est pas sous l'eau.
Okay. Donc, vous êtes deux dans ton équipe uniquement, là ?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Emma
pour gérer, du coup, le sourcing, donc la recherche de nouveaux jeux.
Ouais, sur le salon, ouais.
Une petite partie de développement, j'imagine, même si, bon, s'il y a des auteurs, c'est quand même surtout là que ça se joue, sûrement.
Ouais, après sur le jeu enfant, je parle que pour ça parce que je sais pas du tout comment ça se passe dans le milieu adulte, mais il y a des jeux qui vont beaucoup évoluer côté édito et auteur, quoi. Enfin, ouais, on est vraiment en communication et le jeu, ça arrive que le jeu de base soit pas retouché parce que ça marchait super bien, mais ça arrive aussi qu'après des tests, en fait il y a pas mal de choses à retoucher et un coup de cœur doit se perfectionner. Mais on est deux, ouais, avec Emma. Emma, elle gère aussi notre compte Instagram. Du coup, on est vraiment un petit pôle, une petite entité jeu. Mais après, par exemple, on a aussi des graphistes qui, eux, travaillent avec toutes les autres éditrices. On a des fabricants qui, eux, sont en communication avec les usines en Chine et nous, on les brief. En fait, on est vraiment les chefs de projet. Mmh. Mais on va pas. Moi, je suis jamais en direct avec les imprimeries, par exemple.
Ok, d'accord. Ouais, tu fais pas vraiment tout non plus, quoi.
Non, c'est ça. Non, c'est vraiment un travail d'équipe. Hein.
Ok.
Mais on est les chefs de projet, quoi.
Et vous êtes complètement indépendant de la branche livre ou il y a encore des connexions, des relations par rapport à la production justement ?
Il y a des relations parce que on travaille tous ensemble quand on est dans les mêmes locaux, quoi. Après, par contre, moi j'ai mon rythme de parution, j'ai mes tirages, ça c'est des trucs où c'est chacun fait en fonction de son produit.
Tout à l'heure, tu parlais justement des réseaux de distribution, initialement uniquement en librairie.
Ouais.
Ça se passe comment, là, actuellement ?
Là, actuellement, on est beaucoup mieux développé qu'avant dans le monde du jeu aussi. Au début, on n'était donc qu'en librairie. Et en fait, maintenant, on a des représentants qui sont 6 et qui sont là uniquement pour ouvrir des comptes dans les boutiques et travailler plein de petits concept stores, toutes ces boutiques où les autres représentants n'avaient pas forcément le temps d'aller.
D'accord.
Du coup, en fait, on a renforcé l'équipe commerciale, ce qui fait que on est partout. Après, on a des comptes clés au bureau qui, eux, s'occupent de gérer les GSS, du coup, Cultura, Fnac, tout ça. Donc maintenant, on est partout.
D'accord. Et du coup, tu dis vous avez des représentants, c'est vraiment des gens de chez vous?
En fait, c'est EDI, c'est une société de diffusion. Donc, ils diffusent pas que au Zoo, mais quand même, je sais pas, 80% au Zoo. Et cette société appartient à Gauthier. Donc, c'est pas au Zoo non plus. C'est pas la même... voilà, on n'a pas le même dirigeant, mais si le dirigeant ultime, c'est Gauthier, quoi.
D'accord, ok. Il n'y a, a pas de lien entre les sociétés, si ce n'est que ça appartient à la même personne, mais bon, voilà, c'est des sociétés indépendantes. Okay.
Mais...
Et du coup, c'est lui le distributeur, c'est EDI qui dit ça ?
EDI, du coup, c'est nos représentants qui vont, et après, par contre, c'est Interforum. Nous, on est chez... Voilà, Interforum, c'est... On était chez MDS avant, là, on a changé.
Tout ça, c'est des distributeurs de livres.
Ouais, c'est ça, exactement.
Okay.
Et en fait, ça, c'est parce que de base, on est quand même éditeur de livres.
Ok. Et donc, du coup, ce distributeur de livres, Interforum. Donc, du coup, maintenant, il vend à des boutiques de jeux de société. Il devient un distributeur de jeux de société.
Ouais, en fait, de tout plein de produits, ouais.
Donc, si ça se trouve, on va le voir maintenant débouler comme distributeur de peut-être d'un autre éditeur de jeux. Okay. Vous leur avez peut-être tendu la perche pour s'ouvrir sur d'autres marchés. C'est fort probable, n'empêche. Hein. Ils vont peut-être optimiser un petit peu leur...
Après, Ozu Jeux, parmi Ozu, c'est pas non plus... Moi, j'ai 10 jeux par an, mais Ozu, c'est je sais pas combien de centaines de titres par an.
Oui.
Hein. Je suis un petit bout de Ozu, quoi.
Oui, bien sûr. Oui, ça reste essentiellement un éditeur de livres.
Livres, loisirs créatifs, plein de produits tellement différents, mais le jeu, je suis la seule à faire si peu de titres par an, quoi. Ouais. Les rythmes, d'habitude, pour une éditrice, c'est plutôt 200 projets, enfin, c'est... voilà. Okay.
C'est, d'ailleurs, les jeux, ils sont tirés à peu près à combien d'exemplaires, chacun ? Ça dépend peut-être des gammes,
tu vois ? Exactement, ça dépend des gammes, mais je pense que le minimum, ça va être 7000, et le max, sur des... Là, dernièrement, on augmente nos tirages, mais 20 000 peut-être le max.
D'accord.
Sur un premier tirage.
Mmh. C'est déjà beau, hein, 20 000. Alors, du coup, 20 000, c'est les petites boîtes, j'imagine.
20 000, là, ça va être pour un jeu qui sort à la fin de l'année, qui a été coup de cœur de plein d'enseignes.
D'accord.
Donc, ça fait plaisir. Et non, les jeux de cartes, c'est 10 000, 15 000.
Ok. Ce qui est déjà pas mal.
Ouais, ouais.
Mais un jeu comme Opération Nozette, par exemple, il avait été tiré à combien ?
Premier tirage, 8 000. Mmh. Ouais, après, on a retiré à 10 000 et là, on va retirer en fonction de ce soir.
Eh oui.
Et là, on est en train d'enregistrer avant la cérémonie de remise des prix, donc il y a des espoirs.
Et le jeu qui a eu le plus gros succès commercial jusqu'à présent, tu as une notion de ça ?
En jeu d'auteur ou en jeu classique ? En fait, en jeu classique, on va dire que ça va être un jeu de cartes mini-bac qu'on a inventé, décliné pour apprendre à jouer au petit bac sans savoir lire et écrire.
Ouais.
Je pense qu'on a 70 000 boîtes. Et après, en jeu d'auteur dans cette catégorie-là, on a Gare aux requins, qui est un jeu d'une institutrice, Lorraine Pommier, à partir de 3 ans, et qui aussi marche très très bien. Et sur les grands jeux, là, on a Premier de Cordée qui a très bien marché. C'est un grand plateau avec une montagne en bois. Là, Opération Noisette. Et sur les petits jeux, il y a Wistiplouf aussi de Thomas Favrelière qui avait très bien marché. Voilà. Mais c'est encore plein de projets où c'est en cours parce que l'équipe, on l'appelle l'équipe Jeux Jouets, mais les 6 représentants qui sont venus pour ouvrir des comptes, ils sont arrivés depuis 2 ans. Donc c'est aussi... on s'implante aussi, c'est en train de grandir, quoi.
Mmh, d'accord. Bah, ça a l'air d'être une branche rentable, du coup, non ? Parce que tu dis une dizaine de jeux par an, tu nous donnes des tirages qui me semblent quand même honnêtes, quoi. Alors après, tu vas me dire, peut-être que les tirages partent pas, mais... mais bah, non, c'est une branche rentable, du coup, chez vous ?
En fait, ça coûte très cher de faire du jeu. Et on fait quand même des jeux un peu impressionnants en termes de fabrication. Donc... ça dépend des projets, je vais dire.
Ouais, d'accord, okay.
Il y en a qui nous coûtent plus cher à fabriquer.
Il y a beaucoup de jeux en volume.
Ouais, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de fab complexes. Donc, et nos jeux de cartes sont made in France. Donc, pareil, sur la marge des jeux de cartes, on en fait moins que quand on était en Chine. Quoi. Okay. Donc, mais bon, ça, on est quand même trop heureux d'avoir enfin nos jeux de cartes en France.
Ok. C'est depuis quand, ça, la production en France ?
Je peux vous dire bêtise, mais au moins 3 ans, je pense. 2-3 ans.
Vous fabriquez ça où, du coup ?
Je sais pas si je peux dire l'imprimerie.
Oh.
Bon, chez Alliora.
Je vois pas. C'est dans quel coin ?
À gauche de Paris. Je suis nulle en géographie.
Dans l'Ouest. En Normandie, par là-bas ?
Voilà.
Non, plus ou même Bretagne, non ?
Normandie, je pense.
Ok, bon. Joker.
Joker
géographie.
Joker géographie, ouais.
Ok. Et donc ça, c'est les jeux de cartes qui sont produits en France,
ouais,
et les
ça.
Autres jeux sont encore
les
produits en Chine.
Les autres sont encore produits en Chine, ouais.
Okay.
C'est compliqué de trouver des imprimeries qui où tout le monde est raccord.
Ouais.
Voilà.
Il y a des bon, il y a des choses qui il y a des projets qui sont en train de se monter. En tout cas en France, je sais pas si t'en as entendu parler.
Ouais, si j'ai, ouais. j'ai entendu. Ouais.
Bon après, il va peut-être y avoir un goulot d'étranglement si ouais. vraiment il y a
si
beaucoup
a
de monde
seule,
intéressé.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Hein. Bon, après, il y a d'autres usines en Europe aussi. Il y a pas mal de trucs qui se sont montés post-Covid.
Ouais.
Même pré-Covid, il y avait déjà des choses qui commençaient à se réfléchir. Mais c'est vrai que post-Covid,
ouais.
c'est des choses qui ont pris du poids, de l'importance dans le discours et du coup, bah, fatalement,
ouais.
chez les éditeurs. Quoi.
Oui, à terme, moi, j'aimerais vraiment qu'on soit tout en Europe. Au moins, quoi. Voilà.
Ouais, parce que du coup, votre réseau, c'est que la France, pour Ozu. Enfin, France,
non,
Belgique, j'imagine.
Ouais, France, Belgique, Suisse. Et on a aussi une antenne au Canada.
Ok.
Voilà, ils ont des bureaux sur place. Et après, on a un service international qui s'occupe de vendre les jeux à l'international.
Jeux et livres, etc. Quoi.
Oui, oui, bien sûr.
Ils font tout, ouais, c'est ça.
Ils font tout,
c'est le service qui fait tout.
Ouais, okay. c'est ça.
Mmh. Au Canada, ils ont vraiment des éditions spécifiques ou c'est.
C'est Ozu Canada. Et parfois, ils ont des livres spécifiques canadiens, quoi. Mais la plupart du temps, ils prennent notre production.
D'accord. Ouais, donc ils ont une petite branche d'édition à eux, quoi, vraiment. Okay.
Exactement, ouais.
Et comme pour les livres, c'est toujours de la créa française qui est diffusée dans le monde.
Ouais, c'est ça. Ouais, on fait beaucoup de création. Je travaille pas avec énormément d'auteurs étrangers, je crois.
Pas de localisation non plus.
Pas encore. Mais c'est pas qu'on est contre, hein.
c'est qu'on n'a
pas encore eu de coup de cœur. Ouais, voilà, c'est ça, exactement.
Et donc, pareil au niveau des jeux de société, pas de localisation prévue, a priori. C'est que de l'édition en propre.
Je parlais des jeux de société parce que sur le livre, ils font de la localisation. Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on rappelle à chaque fois de quoi on parle parce qu'en fait, tu parlais jeux de société aussi, mais j'ai des cas du sais, désolé, c'est peut-être moi qui ai fourché dans mon cerveau. Ouais. Alors, revenons aux jeux de société, mais avec un lien livre, tous vos jeux de société ont un ISBN ?
Oui.
Ouais.
Pas tous ? Pas
non.
Pas dans le monde du jeu.
Bah non, parce que l'ISBN, c'est pour les livres, je dis pas de bêtises, non ?
Il me semble, oui.
Ouais. Il me semble. Hein.
Ah ouais, non, tous nos jeux de société ont un ISBN, ouais. Je me suis jamais posé cette question. Ouais. En vrai, moi, j'ai commencé chez Ozu, c'est mon premier travail en sortant de Master 2,
d'accord.
quoi. Donc, c'est vrai que j'ai zéro point de comparaison avec d'autres personnes.
Alors, l'ISBN, je ne sais même pas l'acronyme. Genre, là, on voit que je n'ai pas travaillé complètement mon interview.
Si, c'est 978.
Alors, ISBN, c'est International Standard Book Number.
Book number,
donc,
madame.
Book number.
Ouais.
Un numéro international normalisé créé pour l'identification des livres.
Alors et
après,
des jeux.
du coup.
Alors, la définition du livre est floue. Hein. Il y a eu justement. Non, mais parce que, en vrai, pourquoi cette question ? C'est un vrai sujet dans le monde du jeu de société. Parce que. Il y a cette volonté du monde de la société d'être reconnu comme produit culturel. Mm. On sait que le livre est un produit culturel. Donc du coup, le raccrocher au livre, bah, ça fait gagner... Tu vois, c'est gagné du coup par la force des choses. Puisque du coup, c'est un livre quelque part. Et il y a y a aussi le sujet de la TVA.
Non, mais par contre, on est toujours en TVA 20%. On ne met pas les prix sur nos boîtes de jeux. Ça, en fait, la TVA,
oui, c'est
ça,
vrai.
Quoi.
Oui.
C'est TVA 5,5, t'as le prix obligatoire. Mmh. Et nous, on ne met jamais de prix sur les boîtes.
Mmh. Ok. Effectivement, c'est une manœuvre. Alors, je dis comme si c'était une filouterie. Mais c'est une manœuvre de certains éditeurs, effectivement, pour basculer sur une TVA 5,5.
Okay.
Faire passer le jeu comme un livre et du coup, être sur une TVA 5,5 et du coup, baisser le prix ou augmenter sa marge. C'est là que... C'est là qu'on ne sait pas si c'est de la filouterie ou si c'est un acte de bonté.
Non, bah nous, du coup, on a l'ISBN, mais pas le prix. Donc, c'est prix conseillé. Et après, c'est aux boutiques de faire ce qu'ils veulent. Hein.
Mais du coup, vous n'avez jamais été retoqué par l'organisme qui fournit ce numéro ?
Non.
Vous dites, bah, attendez, votre truc, c'est pas un bouquin ?
Non, mais en fait, même tous les produits pour faire des bijoux en loisirs créatifs, sur tous nos produits, il y a un ISBN. Ouais. Je me suis jamais posé la question. Quoi.
Après, parfois, alors pareil, ça aussi, c'est une astuce, c'est de mettre un fascicule, quelque chose qui, du coup, lui, est un livre. Et à côté, effectivement, tu as du truc créatif, machin, mais il y a un livre, tu vois.
Ouais, mais non, même pas. Hein. Sur des gommettes et tout, il y a des ISBN partout, mais il n'y a pas des prix partout, par contre.
Alors, on sait qui est-ce qu'il va falloir qu'on interview prochainement. L'organisme qui attribue ses numéros. Il va falloir qu'il nous explique.
Pour comprendre un peu mieux comment ça se passe.
T'étonnes pas, du coup, si bientôt tu peux plus les mettre.
Bon, c'est pas trop grave.
Oui, bah oui, visiblement.
Puisqu'on ne veut pas de prix.
Oui. Ouais. Mais du coup, ouais, mais alors, du coup, ça vous sert à quoi?
En fait, c'est nous dans notre base de données, quoi. Ouais, c'est okay. Comme ça qu'on sait de quel produit on parle.
Ah putain, c'est votre informaticien qui va venir me voir et qui va dire, ah, tu vas péter ma base là.
Pour le référencement sur la base. Ouais, exactement. Et sur Internet et partout, quoi.
Bien sûr. Okay.
Mais oui, c'est du référencement, quoi. Okay. Mais j'en parlerai à ma boîte.
Sur le, on voit des fois les noms d'auteurs, d'autrices sur certaines boîtes et pas sur d'autres. Pareil, sur le site, il y a une façon... Enfin, on n'a pas vraiment compris la façon de faire par rapport à ça.
C'est le nom des autrices et des auteurs. Et là, quand il y en a, quoi. S'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de nom. C'est tout. C'est la seule règle. Et après, sur les anciennes boîtes, des vieux jeux que j'ai fait au tout début, on ne mettait pas les noms. Donc c'est quelque chose qu'on a fait, mais ça doit faire au moins 4 ans maintenant que je le fais. Mais du coup, c'est possible qu'il y ait des anciens jeux sur lesquels il n'y avait pas les noms. Mais si après on les reprint, ben là, on remet les noms des auteurs dessus. Mais non, ouais, la règle, c'est toujours mettre les noms maintenant.
Mais OK sur les boîtes. Mais du coup, sur le site internet, en revanche, clairement, il y a des fiches sur lesquelles, Opération Noisette, il n'y a pas le nom de l'auteur.
Ah bon ?
Ouais.
Oui. Ah bah, ça, c'est un souci de site internet, alors. Parce que normalement, il y a toutes les données qui sont censées découler sur le site internet, quoi.
Ah, en gros, l'informaticien, le gestionnaire de la base,
c'est
un problème.
Même quelqu'un d'autre, là, que l'informaticien. Il y a une personne qui a un poste exprès pour ça, donc je lui en parlerai.
Ils vont nous adorer, j'ai osé.
C'est clair. Mais en plus, il y a l'illustrateur, non? Parce que je crois qu'il y avait même une faute dans l'illustrateur qu'on a retoqué.
Je me rappelle plus, mais clairement, enfin, on n'a pas trouvé de logique sur le site internet. Il y a des d'anciens. Je me suis dit, peut-être les anciens jeux, effectivement, ils sont pas sur les fiches. Sur les nouveaux, ils vont y être. Mm-hmm. Et j'ai regardé Opération Noisette. Typiquement, il n'y avait pas le nom de l'auteur. On en a regardé quelques autres. Parfois, on trouvait.
Ouais, ouais. Bon. Oui. Je pense là, c'est plus un site internet à perfectionner.
D'accord.
Qu'une volonté éditoriale.
D'accord.
On parlait justement d'Opération Noisette, qui est un peu mis en lumière actuellement.
Beaucoup même. Hein,
voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous avez reçu cette nomination pour Opération Noisette ?
C'est fou. Hein. Enfin, en vrai, moi, depuis que je travaille chez Ozu, c'était un objectif pour moi d'être nommée aux As d'Or, quoi. Donc là, je suis trop, trop heureuse. Et quand on a su la nouvelle, tout le monde s'est appelé. C'était trop bien, j'ai appelé les auteurs, ils étaient trop contents. Ils sont trop adorables, Émilie et Jérôme Soleil. En plus, ils étaient nommés l'année dernière déjà avec Maurice Le Dodo. Donc, ils ne savaient pas trop s'ils pouvaient y croire cette année, nommer 2 années de suite. Et en fait, les voilà. Donc, ils étaient trop contents. Et c'est un jeu... quand il est sorti déjà, on sentait qu'il y avait une bonne hype. En tout cas, on a rapidement été en rupture, donc c'était plutôt bon signe. Et c'est confirmé, quoi, donc ça fait plaisir.
Alors j'ai pu aller l'essayer hier. J'ai fait mon travail de journaliste. et alors, effectivement, je trouve qu'il y a une scénographie absolument superbe dans Opération Noisette. C'est pas vraiment un truc, il y a un suspense à chaque noisette qu'on fait tomber dedans. J'imagine vraiment jouer avec les enfants, il se passe vraiment quelque chose de génial. J'ai quand même une question, parce que je m'occupe de la chronique joueur né chez Proxy Jeux, donc des jeux pour enfants. Et 3 ans, ça me paraît vraiment juste, moi. 3 ans. Est-ce qu'il y a une gradation qui a été imaginée derrière cette utilisation? J'ai pas lu les règles, donc peut-être qu'il y a.
Ouais, en fait, c'est évolutif en termes de règles au niveau du nombre de feuilles que. Peut-être que j'explique un peu avant comment.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas. Oui, tu peux.
Vas-y, vas-y.
Du coup, dans Opération Noisette, le principe, ça va être de récupérer des noisettes qui ont été volées par la belette. Donc, on va venir prendre une noisette, lancer le dé et la mettre dans l'arbre. L'arbre, il y a plusieurs trous qui sont des niveaux de difficulté aussi. Et l'arbre a une structure à 4 étages. Et en fait, si la noisette tombe sur la table, ça fait un bruit spécifique qui réveille un peu la belette. Donc, on enlève une des feuilles qu'elle a sur elle. Ensuite, il y a un petit joker oiseau qu'on va jouer avant de lancer le dé. Et quand on pose le joker oiseau, l'oiseau va siffler. Et du coup, même si la noisette tombe tout en bas, on ne perdra pas de feuilles. En sachant que du coup, il y a 20 noisettes à mettre et qu'on peut jouer avec 6, 9 ou 10 feuilles. 6, 8 ou 10 feuilles, pardon. Et du coup, le niveau de difficulté, il est par rapport à l'utilisation des feuilles aussi. Parce qu'en fait, à 10 feuilles, ça fait quand même une chance sur 2. Globalement, c'est plutôt facile. Et ensuite, il y a aussi la dextérité avec l'emplacement des petites noisettes dans le trou. Et c'est, nous, on aime bien le dire comme un jeu d'ambiance pour les petits, quoi. C'est un peu mon premier jeu d'ambiance à partir de 3 ans pour passer des bons moments en famille. Et sur la tranche d'âge du coup, sur le 3 ans, en fait, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. C'est de la dextérité, donc en gros, mettre une noisette dans le trou, tout le monde peut le faire. Et après, c'est un jeu qui repose aussi sur la chance, donc c'est, on aime ou on n'aime pas, hein. C'est un jeu qui peut être clivant. En tout cas, nous, ce qu'on trouve incroyable, c'est les sensations de cette noisette qui tombe ou qui tombe pas. Et voilà. C'est, ouais, c'est pour
bruit,
ça que ça a été notre coup de cœur.
Le bruit que t'entends, tu dis, c'est ça. Ce suspense de elle est tombée dans l'étage de deux.
Ah, voilà, c'est ça. Et ah, en fait, elle s'est arrêtée. Et là, non, elle tombe.
Et qui nécessite un petit peu de silence et de concentration et tout d'attention pour les enfants, pour bien écouter l'évolution de la noisette.
Exactement. Il faut être très attentif.
Bon, pour finir, c'est vrai que c'est sur l'utilisation de l'oiseau que je suis un peu sceptique sur le 3 ans. Quoi. Je pense qu'il faut vraiment qu'il soit accompagné. Tu mets une table d'enfant de 3 ans, ça va être un peu... Bon, en tout cas, ils vont pas l'utiliser de façon très pertinente. Quoi.
Bah, en fait, l'oiseau, il n'y a pas trop de bonne ou de mauvaise façon de l'utiliser puisque tu le poses...
stratégie opération d'oiseau.
Non, mais c'est peut-être ça que tu n'as pas eu dans les règles, c'est que tu poses l'oiseau avant de lancer le dé.
Ouais, je sais.
Donc, en fait, c'est plus...
Il y a des moments plus opportuns.
Voilà, si tu sens que l'arbre est chargé de noisettes, vaut mieux l'utiliser à ce moment-là. Mais après... c'est quand même très rare qu'il y ait des enfants, des tables de 3 ans sans aucun adulte autour pour aider un petit
autour,
peu.
De toute façon.
Mais oui.
Ok, non, mais bon. Mais effectivement, non, mais je comprends le point. C'est essentiellement la dextérité, chance. Effectivement, ça reste accessible. Je suis d'accord. Hein. Ok. Et tu peux nous raconter comment ce jeu il est arrivé chez vous?
Oui, bien sûr. C'est Émilie et Jérôme du coup qui m'ont envoyé un mail. Avec il y avait 3 jeux, des règles en PDF quoi. Et moi j'ai vu Opération Noisette, il y avait déjà la structure en 3D et j'ai tout de suite eu envie de tester. Du coup ils nous l'ont envoyé par la poste et après on a pu le tester. Et en fait on a quand même fait pas mal évoluer le jeu ensemble. Bah, typiquement au début il y avait juste des tours et il y avait les oiseaux, les noisettes et un seul trou tout en haut de l'arbre. Et en fait juste à tour de rôle on mettait une noisette dans l'arbre. Il y avait toujours les étages à l'intérieur, mais il n'y avait pas différents trous, il n'y avait pas le dé. Et du coup, c'était un peu... ça manquait un petit peu de piment. Et du coup, en fait, au fur et à mesure de l'évolution, on a rajouté le dé, on a rajouté le fait de faire tourner la boîte. Et après, on a rajouté les niveaux de difficulté avec les feuilles aussi. Voilà.
Okay.
Et ensuite, on l'a fait illustrer par Marco Renko aussi, qui a fait un super bel univers avec cette belette et cette couverture super belle. Et on a aussi rajouté ce qu'il n'y avait pas au début, c'est que l'arbre là on le met dans le fond de la boîte. Mais en fait au début on jouait pas avec le fond de la boîte quoi. Là ça fait une espèce de caisse de résonance plus tout un univers graphique du coup qui a été rajouté au fur et à mesure du développement. Donc on a quand même bien discuté avec les auteurs, ça n'a pas été tout de suite le jeu qu'ils nous avaient envoyé quoi.
On va rappeler qu'actuellement, le jour où on enregistre, la cérémonie de l'As d'Or aura lieu ce soir.
Ouais.
Donc on ne sait pas encore
si
Opération Noisette va être distinguée ou pas.
On verra. On est face à 2 super jeux aussi, Les Éclairtous et Mimos et Sam. Donc on verra bien ce soir ce que ça donne. Mais quel plaisir d'être nommé.
D'ailleurs, comment vous faites pour tester vos jeux?
On fait avec... on a un entourage d'enfants avec lesquels on teste et là on est en train de mettre en place avec l'asso Bingo un partenariat.
L'asso Bingo,
c'est Eva Zwarinski qui est membre du jury et elle a monté une association de ludothèque en fait, ludothèque en plein air.
Okay.
À Paris là ils sont vers le Pré Saint-Gervais.
Oui.
Ils en ont 2 je crois pour l'instant si je dis pas de bêtises. Et du coup, l'idée, c'est qu'on ait un partenariat avec eux pour qu'ils puissent tester, faire des retours, etc.
D'accord.
Okay. Là, pour l'instant, on faisait ça nous-mêmes, mais en fait, à terme...
Avec du coup des groupes, des familles que vous connaissez, vous démarchez dans les écoles, ce genre de choses, non?
Non. On faisait un peu dans les écoles il y a quelques années avec une institutrice. Après, on est allé aussi en ludothèque, mais comme ça, de temps en temps, sans avoir quelque chose de...
Ouais,
de stable
quoi. Fixe, quoi.
Voilà, là c'est ça, l'idée c'est vraiment de professionnaliser la chose.
D'accord, okay. Ouais. Oui, c'est pas évident, c'est un public qu'il faut renouveler sans arrêt, donc
Ouais, c'est ça, et puis les enfants sont tellement différents que bon, enfin faudrait un panel de je sais pas combien de milliers d'enfants. Donc après il y a aussi du feeling quand même.
Okay.
Avant de clôturer, est-ce que tu veux nous parler un petit peu d'une actualité en particulier? Moi, j'ai entendu parler de l'escape game Le Terrible, qui est disponible là, maintenant, sur le salon.
Exactement. L'escape game Bill Le Terrible, c'est un escape game qui a été créé par Théo Rivière et Elodie Clément. Et en fait, c'est un bateau en 3D. Voilà, on est encore dans nos structures.
On reste dans les volumes.
Bah, en fait, les volumes sont immersifs quoi, pour les enfants. Et on a bien remarqué que s'ils pouvaient s'inventer une histoire, c'était gagné. Quoi. Et du coup, on a 10 missions à faire. Et en fait, les 5 premières missions, on va aider Bill le Terrible, le bourru pirate, à réparer son épave. Et les 5 missions d'après, spoiler alerte, mais en gros, on va aller sur une île et le bateau se retourne et se transforme en île déserte. Donc les illustrations sont recto verso sur la structure en 3D et là, on change complètement d'univers. Et on a tout le matériel aussi pour les énigmes. On a deux planches en carton avec plein d'éléments à venir associer. On a le filtre rouge, le miroir, enfin... Il y a vraiment plein de petites énigmes à faire sans qu'aucune soit les mêmes. Donc
aussi bien de l'énigme, on va dire, un peu codée que de l'énigme aussi de manipulation.
Ouais, de manipulation, de recherche, tout type d'énigme, de mots. Et en fait, on va venir chercher sur les bords de la boîte, au fond de la boîte dans laquelle il y a aussi, à un moment, il va falloir tout enlever. Il y a des stickers à venir coller. Il y a pléthore d'énigmes. Et c'est Elodie aussi qui a écrit tout le texte et l'histoire, en fait. Il y a une vraie histoire, quoi. C'est pas juste des énigmes qui s'enchaînent. On a une vraie histoire qui est sur un ton rigolo. Voilà. Donc on l'a mis à partir de 7 ans pour la lecture.
D'accord.
Voilà. Il faut savoir lire.
Vous n'avez pas essayé d'associer un de vos auteurs, j'avais envie de dire maison, peut-être pas non plus le terme associé, mais enfin le terme adapté, mais vous n'avez pas eu envie de justement de trouver un partenariat avec quelqu'un qui a l'habitude d'écrire du livre jeunesse?
En fait, on l'avait fait sur l'ancien, l'escape game Manoir Hanté, où là c'était un auteur qui écrit des livres dont tu es le héros, etc. Mmh. Et là, sur celui-ci, on voulait vraiment... Enfin, Elodie a voulu, on lui a proposé, hein, mais elle a voulu écrire et se lancer là-dedans. Okay. Pour elle aussi, c'était une nouvelle aventure, quoi. Mmh. Et en fait, elle l'a super bien fait, donc allons-y comme ça, quoi.
D'accord. Très bien. Est-ce que tu veux nous parler peut-être d'un autre jeu? Tu nous parlais d'un jeu qui avait de bons échos, j'imagine des boutiques, distributeurs pour la fin d'année, peut-être?
Ça, c'est un jeu classique, Cherche et Trouve des tout petits. Mais par contre, à la fin d'année, on sort une gamme de jeux à partir de 2 ans. Okay. Du coup, c'est voilà, on descend encore. Après, on arrête. Après, c'est de l'éveil. Et du coup, on a un premier jeu avec Marie et Wilfried Faure qui s'appellera Mon coffre à jouets. Où là, l'objectif, ça va être de ranger ses jouets dans un coffre qui est encore une structure 3D, un plateau. Je vais mimer, donc ça va pas marcher, mais.
Explique ton mime.
En gros, avec une légère pente, et on va venir placer nos jouets. Donc, je sais plus comment ça s'appelle, mais un peu comme le. Faut pas que tout tombe, quoi, en gros. Donc, ça va être de la dextérité aussi, mais très, très. Très simple pour du 2 ans. Quoi.
2 ans. Hein.
Avec plusieurs niveaux de difficulté aussi sur les bords de boîte. Voilà, quelque chose d'assez immersif pour les enfants.
Tu nous as dit comment ça allait s'appeler?
Je crois pas. Mon coffre à jouer.
Si, pardon, tu nous l'avais dit. Mais écoute, je sais pas si tu veux ajouter d'autres choses.
Non, merci pour l'invitation.
Merci
super.
À toi.
Merci à toi, effectivement, pour cette présentation d'Ozu et puis toutes les informations que tu as pu nous faire passer. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.